Un crime
de Georges Bernanos.
Adaptation de Sylvie Péju.
Première partie.
Qui voilà ? Oh, c'est Ivo Femi ! Oh ! Oh Dieu, que vous m'avez fait crainte ! Par où que vous êtes montée sans plus de bruit qu'une belette, mademoiselle Femi ?
Bah, par la voir, donc. Drôle de gardienne que vous faites, mademoiselle Céleste. Votre presbytère, on y entre comme dans un moulin. Oh, ce vent, il m'a cinglé les os. Faudrait mieux vous coucher. Votre curé arrivera pas cette nuit, vous pouvez me croire.
Oh, savoir, ma petite. Un jeune curé, il n'y a pas plus impatient, plus naïf. C'est sa première paroisse, voyez-vous. Avec ça, il connaît sans doute rien à nos montagnes.
C'est le vent. Là qui tourne encore plus au nord, entre les aiguilles noires.
Oh, ça ne présage rien de bon. En voilà deux, tout de même. Deux curés que je vois mourir ici.
Bast, le jeune aura bientôt fait de guérir vos humeurs noires. Est-il vraiment si jeune que ça, mademoiselle Céleste ?
Oh oui. Enfin, je le suppose. 25, 30 peut-être.
25 ou 30 ? A-t-il seulement l'idée d'une paroisse perdue comme voilà celle-ci, à 10 lieues de la ville et des routes ? On pourrait crever sans confession 5 mois sur 12. Je le plains, moi, ce garçon.
Ce garçon ? Non mais voyez comme elle vous dit ça, on l'effrontait.
Ah oui, quoi, un garçon. Et si fierot qu'il soit, sûr qu'il n'emmènera pas large quand demain il rendra visite à monsieur le maire. Pensez, ils l'ont attendu dans le froid 2 heures durant. Et quand la patache est arrivée, pas plus de curé que sur ma main.
Possible qu'il ait été retenu à Grenoble.
Enfin, mademoiselle Céleste, couchez-vous donc au chaud. Une nuit est bientôt passée.
La grande Femi partie. Céleste, tenant des deux mains sa jupe que le vent gonflait comme une cloche, repoussa l'énorme bâton de chêne. Elle inspecta chaque pièce avant d'aller s'étendre sur la paillasse.
Qui va là ?
C'est moi, le nouveau curé de Mégère.
Céleste ouvrit la porte et faillit éclater de rire. Ce jeune curé ressemblait à un écolier pris en faute et qui s'efforce de donner à ses traits une expression de dignité.
Vous êtes venu. Oh, vous êtes venu. Entrez. Entrez donc chez vous.
Je désirerais une boisson chaude. Est-ce possible?
Le temps d'aller chercher un fagot, si monsieur le curé veut bien tenir la lampe.
Elle remarqua qu'il portait des gants de filoselle noire. Sa soutane était usée, mais propre. Deux boutons y manquaient.
Déjà du travail pour vous. Je suis très maladroit et malchanceux. Vous devinez que j'ai manqué la patache. Un voyageur de commerce m'a offert une place dans sa voiture, mais il a fallu que le radiateur gelât au passage du premier col. C'est alors qu'une petite carriole...
Quelle carriole ?
La carriole d'un brave garçon, un peu simple.
Oh, Mathurin ! Vous avez fait la route avec Mathurin ?
Et qu'est-ce donc, Mathurin ?
Un ancien berger, une sorte d'idiot, voire... Avec son petit héritage, il s'est payé un cheval et une voiture, alors on lui confie des chargements par-ci, par-là.
Il avait promis que nous serions arrivés vers 8 heures, seulement...
Seulement, il s'est arrêté partout. Rapport à ses peaux de lapin. Des peaux de lapin ! Il met dessous du tabac... De l'alcool, enfin que sait-on. Il vous a déposé sur la route de la poterie, hein ? Oh, je connais ses manières. Pas de danger qu'il engage son cheval la nuit dans un mauvais sentier. Son cheval, c'est comme qui dirait sa femme. Et qu'est-ce que vous lui avez donné pour ça, monsieur le curé ?
Ça n'a pas d'importance.
Oui, oui. Monsieur le curé se sera dépouillé pour cet idiot qui ne lui en aura pas plus de reconnaissance qu'une bête.
Vous croyez ?
Les gens d'ici sont durs. Et vous, tel que vous voilà, si gracieux, si doux, si honnête, monsieur le curé me plaît déjà. L'autre, l'ancien, c'était pas un mauvais homme, mais rustique et malade. Pas commode à servir, ça non.
Mademoiselle Céleste, je crois que nous serons amis.
Je vais vous montrer votre chambre. Et monsieur le curé voudra bien laisser sa soutane à la porte. Je lui donnerai un petit coup de fer.
La vieille bonne s'endormit, rassurée. Le vent était tombé. Dans son sommeil, elle crut entendre battre le volet de la cuisine. Elle se dirigea vers sa porte, à tâtons, l'ouvrit. Le jeune curé de Mégère était devant elle.
« Je vous demande pardon. J'ai entendu. »«
Entendu quoi ?»«
Dehors, par la fenêtre. Venez. »« Qu'ai-je là devant moi ?»«
La nuit ?» Il fait plus noir que dans un four. Quoi donc que vous avez vu ?
Je n'ai pas vu, j'ai entendu. Qu'y a-t-il dans cette direction ?
Je sais pas, des pâtures.
Et au-delà des pâtures ?
Y a rien. Le village est dans notre dos, ben y a le château. Mais quoi donc que vous avez cru entendre ?
Je n'ai pas cru entendre, j'ai entendu deux cris, suivis d'un coup de feu. Il faut m'accompagner en haut du sentier. Montrez-moi le chemin.
C'est elle qui le suivit en silence. Il allait très vite sur ce mauvais sentier, avec une assurance de somnambule. Autour d'eux, l'air était froid et calme.
Mademoiselle Céleste, peut-être me suis-je trompé après tout.
C'est bien possible.
Le cœur de Céleste battait à grands coups sourds dans sa poitrine, mais elle s'attachait simplement au pas de ce prêtre inconnu qu'elle eût désormais suivi n'importe où, aussi désarmée qu'une enfant.
Trompé ou non, nous devons aller jusqu'au bout. N'eussions-nous qu'une chance, cette chance est celle d'une créature humaine en péril. Qui habite là ?
C'est la maison de Fémy, votre sonneuse, monsieur le curé.
Est-elle capable de donner l'éveil ?
Fémy ? Mon Dieu, elle pourrait réveiller tout le canton.
À peine informée par Céleste, Fémy dégringole la pente de toute la vitesse de ses longues jambes. Et 5 minutes plus tard, elle frappe à la porte du maire. Le temps qu'il enfile sa culotte, elle a déjà alerté le vieux garde-champêtre Firmin et tire de leur lit, du même coup, les deux fils Heurtebise qu'elle retrouve 2 minutes plus tard sur la petite place.
Ah, oh, sacré garce! Tu sais quelle heure il est?
Mais monsieur le maire, c'est Céleste!
Non, c'est moi. J'ai entendu un coup de feu du côté du château.
Monsieur le curé, je présume. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous aviez manqué la patache.
Je vous expliquerai.
Autant aller faire un tour là-bas, puisque la nuit est fichue, hein ?
Les hommes se mettent en marche vers le château. Le mince faisceau de la lampe tourne autour de la grille du parc, qui est ouverte, comme toujours. Ce parc n'est d'ailleurs qu'un médiocre jardin de 2 hectares envahi de ronces.
On a l'air d'idiot, là. Qu'est-ce qu'on vient me foutre ici à cette heure ?
Supposer qu'un type ait fait le coup, sûr qu'il aurait filé.
Et quel coup, Firmin ?
Ben, supposer que j'ai dit... Une supposition, rien de plus. À mon sens, il s'agirait de passer derrière la bicoque. Parce qu'ici, tu pourrais crier tout ton sou, tirer au pistolet, je vais être pendu si on t'entendrait du presbytère. Sûr que la chose a dû se passer du côté opposé.
Et quelle chose ?
Oh, fais ce que tu veux, après tout, c'est toi le maire.
Bon, autant voir. Et si nous ne voyons rien, je vous emmène. Il n'y aurait pas de bon sens à réveiller ces gens-là.
Il montre d'un geste large la maison qu'un éclair de sa lampe vient de parcourir de haut en bas. C'est un grand cube de pierre, d'une tristesse que ne réussit à égayer nulle saison. Madame Beauchamp, qui l'habite depuis 10 années, est la très vieille veuve d'un officier de marine. Elle y vit en compagnie d'une ancienne religieuse sécularisée de Notre-Dame de Sion, Madame Louise, qui lui sert de gouvernante. Et la petite bonne de 15 ans, Philomène, couche sous les combles. Madame Beauchamp a peu de relations. On raconte qu'elle a été très belle, que son mari l'adorait, et qu'elle a fait avec lui le tour du monde. L'autre côté du parc est moins broussailleux mais fort escarpé. Le chemin serpente à travers un maigre taillis pour descendre à pic vers la route de Dombasle. C'est dans ce chemin que s'engage le maire. Les deux fils Hurtubise fouillent les buissons à sa droite, le garde champêtre un peu plus loin, à sa gauche.
Tiens, voilà Drumeau qui sort des plumes. Oh, Drumeau !
Qu'est-ce qui se passe ?
T'as entendu quelque chose cette nuit ? Des cris ?
J'arrive.
Ce Drumeau bûcheronne dans la forêt de Servières, que ses ancêtres n'ont pas quitté depuis des siècles. L'ancien curé l'a promu fossoyeur, et il chante le dimanche au lutrin.
Des cris ? Vous voulez rigoler ? Votre curé les aurait entendus du presbytère ? À plus de 500 mètres d'ici, et pas moi ? Des blagues.
Il y aurait aussi eu un coup de feu.
Un coup de fusil ?
Non, de pistolet. Enfin, qu'on suppose. Un claquement.
Un claquement ? Votre curé dit qu'il a entendu un claquement. Et comment diable il était là, ce curé ? Puisqu'il avait manqué la patache.
Et il est venu dans la voiture de Mathurin, tard dans la nuit.
Mon Dieu, les gars ! Un macabé !
Le cadavre repose sur le flanc. La tête disparaît dans un coussin de feuilles mortes, ramenée en tas sous les épaules. Le sang déjà figé par le froid fait à la hauteur des reins une plaque de boue noirâtre, hérissée d'aiguilles de pin.
Il a été descendu par derrière.
C'est un gars, tout jeune gars, pas du pays.
Ça a pas l'air d'un mauvais garçon.
Vous êtes sûr qu'il est bien mort, hein ?
Bah ouais. Mais qu'est-ce qu'il est venu foutre ici en pleine nuit ? Et dans ce costume encore ? Il n'a qu'une chemise, une culotte et des chaussettes. Faudrait au moins retrouver ses sabots. Oula. Regardez ça.
Une balle. On a dû lui mettre ça de près. L'étoffe de la chemise est brûlée.
Bon. Nous devons prévenir au château. Allez, venez. Ça m'embête d'inquiéter la vieille dame, mais on ne peut pas la laisser dormir tranquillement avec un macabé dans un jardin.
Bah écoute, on va d'abord essayer d'éveiller la gouvernante.
Attends, chut. Il y a du bruit là-haut. Philomène, j'ai vu le bout de ton nez. Fillette, descends tout de suite, au nom de la loi, c'est moi, monsieur le maire.
Tu vas réveiller madame Louise ?
Non.
C'est bon, Philomène. Que se passe-t-il ?
J'ai besoin de vous deux. Il s'agit de s'entendre avant de réveiller madame.
Réveiller madame ?
Madame Louise. Il y a un macabé dans le jardin.
Un quoi ?
Un mort, quoi.
Un mort ? Oh, comment cela peut-il se faire ?
Madame le saura peut-être.
Je vais prévenir madame.
Le maire suit l'ancienne religieuse à quelques pas. Au moment de frapper à la porte de la chambre, elle le maintient à distance d'un geste de la main.
Mon Dieu, la porte est entrouverte.
La vieille dame, en chemise, est étendue sur le parquet. Les genoux ramenés contre la poitrine. Les lèvres minces décolorées ne se distinguent plus de la peau livide. Le sol autour d'elle est jonché de lettres déchirées ou chiffonnées. D'autres achèvent de se consumer dans la cheminée.
Pater noster, quis in celis, sanctificatur nomen tum, et veniat regnum tum.
Et fermez, monte ! La vieille dame est morte.
Comme il porte le cadavre jusqu'au lit, la tête disloquée se renverse d'une épaule à l'autre. La pointe d'un os brisé tend la peau à la hauteur de la première vertèbre, au centre d'une énorme ecchymose. Firmin retourne entre ses doigts un chenet de bronze, bizarrement enveloppé d'une serviette légèrement teintée de sang.
L'instrument du crime.
Laisse ça. Il faut prévenir la police.
Monsieur le maire, il faut réveiller le docteur.
Oh, le docteur ? C'est-tu que t'es devenu fou, Jean-Louis ? On a bien le temps de faire le constat de décès.
Mais le type en bas, il vit encore.
Eh ben alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Va le chercher toi-même, le docteur.
Le type a l'air de vouloir parler. Oh, des mots qui n'en sont pas. Il bredouille les yeux fermés en remuant les doigts. Vous vous diriez une vieille femme à l'église. Il a rendu un caillot de sang. Aussi gros qu'un œuf de pigeon. Supposez qu'il cause. Vaut quand même mieux que ce soit à vous, pas vrai ? Vous êtes le maire, après tout.
Le maire se rend au chevet du blessé. Le grand Hurtubise l'a adossé à un rocher.
Il grince des dents comme un rat.
C'est impossible qu'un homme tienne en vie, rangé comme ça.
Faut l'interroger maintenant ou jamais.
Et comment veux-tu que j'interroge ça, moi ? Il n'a pas plus de connaissances à cette heure qu'un vrai mort.
Savoir. Il y a 5 minutes, il marmottait encore.
Bon, allons-y. Il s'est pas tant gêné avec la vieille, hein. Allez, mon vieux, cause un peu. Récite-nous ta leçon.
Il y a du sang partout.
Ne touche pas. Regarde.
Une de ses mains se détache du mouchoir, s'élève lentement à la hauteur du menton. Une main si livide que les cernes des ongles malpropres s'y détachent avec une extraordinaire netteté.
Qu'est-ce qu'il veut nous dire ?
Rien. Il fait son signe de croix.
Il n'y aura pas de messe ce matin, que je te dis, Sainte Nitouche. Et peut-être pas avant dimanche.
Et pourquoi, Mademoiselle Céleste ?
Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien.
Le petit clergeon fait docilement oui de la tête. Ses traits charmants ont une gravité précoce. La vieille déteste, sans savoir pourquoi, les beaux yeux noirs, toujours cernés d'une ombre bleue, la bouche pâle, la double fossette du menton, aussi doux que celui d'une femme.
À qui parlez-vous, Mademoiselle Céleste ?
À l'enfant de cœur, monsieur le curé.
Priez-le d'entrer.
Monsieur le curé t'appelle. Alors tâche d'être poli. Il va pas le fatiguer, hein, avec tes contes.
Le nouveau curé de Mégère est dans son lit, enveloppé d'une écharpe de laine noire. Une couverture est jetée sur ses jambes et il tient son bréviaire d'une main, tandis que l'autre caresse le front de l'enfant de cœur. Il dessine vaguement une croix.
Comment vous appelez-vous ?
Gaspard André.
Votre nom de famille ?
Gaspard.
Alors vous devez dire André Gaspard. André, je regrette que vous vous soyez dérangé inutilement ce matin. Peut-être savez-vous...
Oui, monsieur le curé.
Chut ! Ne parlons pas de ces choses horribles. Regardez-moi dans les yeux, n'ayez pas peur. Lorsque Dieu nous met en présence d'un maître, l'avenir dépend d'un premier regard bien franc. Nous sommes destinés à travailler ensemble, mon enfant. Destinés, comprenez-vous ? Le destin, c'est un beau mot, un mot divin. Un de ces mots qu'un jeune garçon doit comprendre. Les mots divins sont faits à son usage. Mais tout cela doit vous paraître obscur. Savez-vous un peu de latin ?
Non.
Dommage. L'apprendrez-vous ?
J'irai à Gap l'automne prochain. Étudier pour être...
Prêtre. Je l'avais deviné au premier coup d'œil. Mon enfant, vous serez plus tard comme un prêtre et seul, même dans une honnête paroisse comme celle-ci. Je regrette de ne pas pouvoir aller maintenant jusqu'à l'église. J'ai sûrement pris la fièvre cette nuit.
Voilà le groc de monsieur le curé. Et vous fatiguez pas tant.
Vous avez raison, mademoiselle Céleste. Les vieilles gens sont plus faciles à séduire qu'on pense. Il suffit de paraître tenir compte de leur avis.
La main du jeune curé caresse le front de l'enfant. Ses joues.
Nous sommes de pauvres gens, de très pauvres gens. Nous n'aimons pas le bon Dieu aussi naturellement que nous nous aimons nous-mêmes. Le péché originel le veut ainsi. Mais nous pouvons prendre l'habitude de la prière. La prière devient une habitude, une chair. La plus chère de nos habitudes.
Je voudrais... Excusez-moi.
Je voudrais vous ressembler un jour. N'est-ce pas cela que vous alliez dire ?
Oui.
Maintenant, André, prions. Quel drame affreux. Deux cadavres. Mais Dieu l'a ainsi voulu.
Deux cadavres ? Je croyais...
Que croyez-vous, André ?
Il disait tout à l'heure que l'homme était encore en vie.
En vie ? Madame Céleste, est-il vrai que... Vous m'avez menti ? Vous le saviez ?
Ce n'était qu'un bruit. On dit tant de choses. La gendarmerie est sur les lieux depuis 5 heures. Paraît qu'on laisse plus passer personne.
C'est ce qu'on va voir. Passez-moi ma soutane et mes chaussures. Vous, André, Menez-moi là-bas par le plus court. Est-il possible d'éviter le village? Je ne veux pas qu'on me croie capable de favoriser une opération de police.
Ils prennent par les prés. Un peu plus loin, la terre s'appauvrit. Le rocher affleure, la pente se couvre de bruyères et d'ajoncs. Au sommet de la colline, le curé est à bout de force et doit s'asseoir sur une pierre. Au-dessous d'eux, des gens vont et viennent. On reconnaît les képis galonnés des gendarmes.
Il y a beaucoup de monde sur la route et un autre groupe un peu plus haut dans le taillis. Ah ! Monsieur le maire, vous m'avez fait peur.
Ah, pousse-toi, toi. Ah, monsieur le curé, vous n'êtes pas de trop. Pour moi, les gendarmes bafouillent. Ils arpentent le terrain, ils comptent les pierres. Sacré farceur, va. Sûr que l'assassin a des complices.
Vit-il encore vraiment?
Oh, vivre, enfin... Sa vie, si on veut, hein. Moi, j'appelle pas ça vivre. Et puis, est-ce qu'il mérite de vivre? Hein?
Aux yeux d'un prêtre, monsieur le maire, il n'y a pas d'assassin. Je ne connais que le mourant.
Le curé de Mégère n'a pas besoin d'écarter les rangs de spectateurs. Il s'ouvre d'eux-mêmes, aussitôt que sa longue silhouette noire apparaît dans le taillis. Le moribond semble dormir, veillé par un homme grand et sec.
Docteur Niklaus.
Ah, comment est votre blessé?
Coma. Nous attendons l'ambulance. Dans l'état où il est, je redoute de le faire transporter sur un brancard de fortune par ses maladroits.
Sans connaissance?
Coma. On ne sait rien. Qu'il ne voit pas, c'est sûr, pour la bonne raison que le muscle des paupières ne sera détendu que par la mort. Mais il est possible qu'il entende aussi bien que vous et moi.
En silence, le prêtre s'approche du moribond, s'agenouille et commence de prier. D'un accord tacite, ils s'écartent tous, les uns après les autres. Le médecin lui-même s'éloigne pour fumer une cigarette.
Docteur, il est mort. Du moins, je le crois.
Vous en êtes sûr? Et vous, docteur?
Faites voir. Non, pas mort, c'est bizarre. La respiration est embarrassée, mais le cœur se défend.
On ne peut quand même pas le laisser là.
Gendarme, vous parlez comme un imbécile. Le moribond est intransportable. Intransportable, vous comprenez?
Monsieur le juge d'instruction nous demande tous là-haut. Rassemblement.
Il y a eu dans ce parc beaucoup trop d'allées et venues, monsieur le maire. Si vous laissez faire, nous aurons bientôt tout le village sur le dos. Je ne veux près de moi que les témoins. Procédons par ordre. Monsieur le curé d'abord.
Monsieur le juge d'instruction, ma déposition sera courte. J'ai quitté Grenoble à 3 heures environ.
Plutôt 4. Je me suis permis de m'informer avant mon départ. Je sais donc que vous êtes arrivé par le train de 10 heures, que vous avez pris votre repas de midi à l'hôtel de l'Univers, que vous avez manqué la patache... Fait une partie de la route avec un industriel de Lyon et le reste du voyage dans la carriole de Mathurin. Votre arrivée est antérieure au crime de plus d'une heure et demie. Dites-moi tout. Votre concours me sera précieux.
Pardon, mais nouveau venu dans cette paroisse, je me crois tenu à une très grande réserve. Je ne pourrais accepter d'inaugurer mon ministère par une collaboration avec...
La police? Je comprends. Ce scrupule vous honore.
La justice des hommes, monsieur le juge, ne considère que les résultats. Elle ne va donc pas sans injustice. C'est pourquoi elle n'est pas la mienne.
Soit. Tenons-nous-en à l'essentiel. Vous avez été réveillé par...
Je n'ai pas été réveillé. Peut-être ai-je fermé les yeux quelques minutes, c'est tout. J'ai donc entendu très distinctement plusieurs cris, suivis d'un claquement sec que j'ai pris pour un coup de pistolet. Madame... Bon, je ne me souviens plus son nom, le nom de la propriétaire...
Beauchamp.
Madame Beauchamp a dû...
La victime a été attaquée par derrière alors qu'elle tournait le dos au cabinet de toilette où l'assassin devait se trouver caché. On a relevé, au fond d'un placard, sur une pile de linge sale, la marque très reconnaissable d'un corps. Les cris que vous avez entendus, monsieur le curé, n'ont probablement pas été poussés par Madame Beauchamp. Au premier examen, la distance de cette maison à la vôtre ne lui aurait pas permis de se faire entendre.
Ce que je puis vous affirmer... C'est qu'une femme a appelé au secours cette nuit vers 2 heures. et j'ai cru aussi entendre un coup de feu. Me serait-il possible de savoir dans quelle direction se trouve mon presbytère ?
J'allais vous le proposer. Venez à la fenêtre. Regardez.
La distance est grande, en effet.
Le prêtre revient s'agenouiller près du lit de la morte et prie longuement, la tête dans les mains. La gouvernante le rejoint.
J'irai vous voir, monsieur le curé.
La gouvernante reprend sa place au fond du fauteuil et graine son chapelet. Le curé rejoint le juge.
Vous êtes jeune, monsieur le curé. Très jeune. Mais vos yeux me disent que vous avez l'expérience des gens. Cette gouvernante, c'est une ancienne religieuse. Insoupçonnable, mais suspecte.
Suspecte.
La méfiance est une bonne chose. Enfin, le danger, c'est que l'homme méfiant finit par se méfier de sa méfiance. Vous êtes un drôle de type, monsieur le curé. Savez-vous que votre regard me gêne? Vous pourriez charmer des serpents. Ah, excusez-moi deux secondes, une vieille connaissance.
Monsieur le procureur de la République.
Bonjour, Frècheville. Quel chien de temps. Bon, qu'est-ce que c'est?
Le nouveau curé de Mégère. Fascinant.
Ah oui. Très jeune, hein? Venu cette nuit?
Oui.
Belle allure.
Un homme supérieur.
Bof. Bon, au travail, messieurs. Greffier, enlevez-moi ces paperasses. Pas de paperasses. Parlons d'abord. Causons à la bonne franquette. Où sont les premiers témoins? Vous êtes le maire?
Oui.
C'est vous qui avez trouvé le cadavre?
Oui, monsieur le procureur.
Seul?
Non, monsieur le procureur. J'étais avec le garde champêtre, les deux fils Hurtebise et Drumeau.
Bon. Où est la petite bonne?
J'aurais désiré que la gouvernante...
Petite bonne.
Appelez Philomène.
Ah, Philomène Depuis, 17 ans. En service chez madame Beauchamp depuis le mois d'août. J'écoute. Allez, mignonne, ne te trouble pas. Tu as un amoureux?
Oui, monsieur.
Non?
Si, monsieur.
Je te demande son nom. Cet amoureux, il s'appelle comment?
C'est le fils à madame Roire, monsieur.
Depuis quand?
La foire de Molène.
Il vient ici?
Oui, monsieur.
Dans la maison?
Non, monsieur. Dans le parc, quand je vais chercher le lait à la ferme.
Rendez-vous hier soir?
Oui, monsieur.
Assez pour aujourd'hui. Tu peux disposer. Sacrée matine, hein? Elle me rappelle quelqu'un.
Messieurs, je vous demande la permission de me retirer. Je suis à bout de force. Monsieur le juge, je désirerais plus tard vous parler. Je ne quitterai pas mon presbytère aujourd'hui.
Le jeune curé respire difficilement, pressant son mouchoir contre ses lèvres. Le juge ne peut s'empêcher d'admirer ses mains soignées, aux longs doigts, des mains d'évêque.
Un peu. La victime possédait-elle un revolver?
Oui, monsieur. Il est là, d'ordinaire, dans le tiroir de ce secrétaire.
Ah. Il était là. Il n'y est plus.
Madame Beauchamp n'y attachait aucune espèce d'importance, monsieur le procureur. Elle n'était pas craintive. Nous n'avions d'ailleurs aucune raison de craindre qui que ce fût.
Votre maîtresse, le cas échéant, eût-elle été capable de se servir d'une arme à feu?
Certainement. C'était la femme d'un militaire.
A-t-elle tiré cette nuit?
Non.
Pourquoi non?
Parce que je l'aurais entendu, je dors très peu.
En somme, vous assuriez seule la surveillance de cette maison?
Oui, monsieur. Madame Beauchamp ne s'occupait de rien. Ce que je faisais était bien fait.
Alors vous auriez dû savoir que votre petite bonne avait un amoureux.
Oui, monsieur. Il s'agit du fils Rouard, un bon garçon. Madame s'intéressait à l'établissement de Philomène et je crois qu'elle lui eut fourni une petite dot. Nous avons recueilli cet enfant après son passage à Grenoble, où elle était tombée dans de mauvaises mains.
Mauvaises mains. Admettons. Bref, j'ai simplement noté les coïncidences. Un homme a été blessé d'un coup de feu. Un revolver a disparu. La bonne a un amant. Or, les circonstances du crime semblent prouver que son auteur a été très bien renseigné. Par qui? Hein? Et puis je m'étonne aussi que vous ne soyez pas encore allé voir le moribond.
Monsieur le procureur jugera sans doute que j'ai déjà ce matin rempli des devoirs assez pénibles. Les forces d'une vieille femme ont des limites, monsieur. Et puis, si le moribond m'était connu, il le serait aussi des gens de Mégère.
Nous allons le descendre à la mairie, peut-être réussirons-nous à débarrasser la trachée. Mais c'est bizarre. La blessure du poumon n'explique pas les crises de suffocation que j'observe depuis une heure. Oui, il y a là quelque chose de bizarre. Vous voulez venir le voir?
Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu.
Drôlement vêtu pour un voyage en montagne. Bigre. Une chemise en flanelle d'excellente qualité. Une vieille culotte. Pas de chaussures. Comment expliquez-vous ça, monsieur le juge d'instruction?
L'individu portait une amulette ou quelque chose d'approchant. Une croix, peut-être. La trace en est visible à la base du cou.
Le costume n'est pas ordinaire. Notez aussi que les mains sont sales, mais sans déchirure ni calme. Déguisé en vagabond, hein, Frecheville?
Déguisement... N'oubliez pas qu'une première enquête a révélé les traces d'une assez longue station du meurtrier au fond d'un placard. J'en puis conclure qu'il a dû circuler dans la maison avant de trouver sa cachette. Et on ne traverse pas une maison silencieuse en paletot de fourrure avec des souliers ferrés. Pour expliquer la présence ici de l'assassin, dans ce costume, il suffit d'imaginer qu'il s'est enfui avant d'avoir pu remettre la main sur son paquet de vêtements dissimulé dans un coin du jardin.
Très bien, parfait, je n'y avais pas pensé. La raison de la fuite précipitée se devine. Le coup de feu a été tiré par la vieille dame, et l'assassin ne songeait plus qu'à disparaître au plus vite avec une balle dans la peau.
Tiens, regardez-moi ça.
Le docteur enfonça ses doigts dans la bouche ouverte du vagabond pour en extraire un caillou gros comme le pouce, souillé d'une bave sanglante.
Que signifie ?
Oh, peu de choses. Il a mordu la poussière, hein? Sans doute s'est-il débattu la face contre le sol. Monsieur le procureur, je vous demande la permission d'accompagner le blessé jusqu'au village.
Allez avec le docteur, Frecheville. Moi, je retourne au château.
Vous savez, docteur, le procureur rentrera à Grenoble, alors c'est moi qui orienterai l'enquête. Pas dommage. Le vieux déraille. Il est connu assez brillant, jadis, à Narbonne. Vous l'avez vu avec la petite bonne? C'est sûr qu'il l'a connu dans une rue chaude à Grenoble. Un magistrat saisi par la débauche ne devrait exercer qu'à Paris. Le juge d'instruction doit se méfier de tous. Et d'abord de son procureur. Vous avez vu? Je n'ai pas insisté au sujet du caillou. Une question. La blessure de la balle a-t-elle causé une hémorragie immédiate?
Certainement.
Abondante?
Probable.
Bon. Nous n'avons relevé dans la maison ni dans le parc aucune trace de sang.
Ce qui veut dire que le type a reçu son compte juste à l'endroit où il est tombé. Ce n'est pas la vieille qui a tiré.
C'est évident. Je commence à croire que je sauverai mon bonhomme. Et je le souhaite. Ne serait-ce que pour apprendre le nom du petit camarade qui lui a fourré ce caillou dans la gorge.
À travers le torchis de la masure, le vent soufflait si fort que la flamme du foyer se couchait sur les cendres, avec un hoquet de fumée.
Allons, Mathurin, tu en as trop dit ou pas assez?
J'ai vu une femme. Sûr que je l'ai vue, mon brigadier. Une vraie femme avec un caraco de poil. J'aurais pris aussi bien pour une bête.
Reprenons l'histoire depuis le début. T'as rencontré le curé un peu au-delà de Servières. Bon. Tu l'as amené jusqu'à l'entrée du bourg. Il est descendu haut de la côte. Ça va. Le chemin mène droit au presbytère, pas moyen de se tromper. Ça va encore. Jusqu'ici, rien de cloche.
Excusez, brigadier. Il aurait pu bifurquer sur la droite par le Réguillon.
Oui, justement.
Quoi, oui? S'agit pas de dire comme nous, t'es libre.
J'ai cru que le curé s'était trompé. Une idée seulement. Ouvrant les yeux, je me suis dit, tiens, j'ai dormi. Mon cheval s'était mis au travers de la route et la charrette a bien failli se mettre sur son cul.
Tu dors dans ta voiture maintenant? À pas 500 mètres de ta cambuse?
Fallait que mon cheval souffle, pardi. J'ai fermé les yeux et le froid m'a saisi.
Bon. Tu débarques le curé et tu t'endors. Soit. Tu ouvres les yeux. Et quoi que tu vois en ouvrant les yeux?
Une espèce d'ombre qui se défile par le chemin de la Hure. Je l'ai prise pour un chien perdu.
Sacré menteur! Il a dit, voilà pas 5 minutes, une femme en caraco.
Écoute, Mathurin, fais-moi plaisir. On va trinquer tous les trois.
J'ai entendu sonner une pierre. Je me suis dit, on marche dans le chemin de la Hure. Le curé s'est trompé. Faut dire qu'il est jeune, pas habitué au pays. Et il avait l'air malade. J'ai rangé mon cheval sur le bas-côté. J'ai dévalé le Réguillon pour couper la route au curé. Alors, j'ai vu les fenêtres du presbytère allumées. Je me suis dit, faut croire que le curé est quand même rentré. Voilà, vous savez le truc.
Tu mens. Écoute, Mathurin, parole de brigadier, tu ne serais inquiété en rien. Le juge, à qui tu vends du gibier détruite, il voudra pas qu'on t'embête.
La voix m'a paru venir d'un peu plus haut que le chemin. Elle gémissait à petits coups, comme ça. C'était de la douleur ou de l'essoufflement. Et dans le moment que je déboulais parmi les pierres, je l'ai rencontrée. Oh, je l'aurais pu toucher de la main. Une fille. Une grande et belle fille, sûre. On s'est trouvés nez à nez tous deux, aussi couillons l'un que l'autre, parole. Mais j'ai perdu aussi vite. Elle a remonté vers le château et moi vers la charrette. Voilà, chacun son affaire, quoi.
T'as pas rêvé, Mathurin?
Le voiturier était déjà ivre. Tandis que le gendarme lui donnait lecture du procès-verbal, il s'endormit et ouvrit à peine les yeux pour signer.
Brigadier, le juge a du flair. 2 heures après la découverte du crime, je l'ai entendu dire au docteur, il doit y avoir une femme là-dessous.
Le docteur de Mégère sortait du presbytère lorsque le juge y entra.
On a retrouvé l'arme du crime. Le revolver de la vieille dame. Juste sous la fenêtre du cabinet. À croire qu'on l'a jeté de là-haut. Sauf que les persiennes étaient closes. Drôle de fantaisie qu'aurait eu l'assassin de fermer le volet avant de déguerpir avec une balle dans la peau. Et à moitié nu. Et notre jeune curé, malade ?
Oh, ce prêtre n'a rien d'une femmelette. Je ne l'ai même pas examiné. Le pouls m'inquiète et le regard est celui d'un grand nerveux, voilà tout. Comme chez beaucoup de ses pareils, je veux dire des prêtres nés, la part féminine est chez lui très forte. Vous observerez son visage. C'est un mystique de la grande espèce.
Je me demande si le crime ne pose pas pour lui une question de conscience.
Pourquoi pas ? Nous savons, vous et moi, l'importance du secret professionnel.
Au bruit de la porte, le curé de Mégère ne leva pas la tête. Ses yeux clos, ses joues creuses, le pincement de ses lèvres lui faisaient un masque si tragique que le juge n'osa d'abord pas entrer. Mais la main du prêtre sortit de l'ample pèlerine et lui fit un geste amical.
Je suis si content que vous soyez venu. Monsieur, croyez-vous en Dieu ?
Certes, les hommes me dégoûtent trop.
Ne plaisantez pas. Vous avez devant vous un homme malheureux. Je suis dépositaire d'un secret.
Vous êtes libre ?
Non, je ne suis pas libre. Si je l'étais, je ne vous aurais pas reçu.
Rien ne presse. L'enquête suit son cours. Il est facile d'attendre que votre santé...
Ma santé n'importe pas du tout. La santé, c'est un mot qui m'écœure. Cela remplit la bouche, comme tous les mots que les hommes ont inventés pour se donner l'illusion de la sécurité.
Vous êtes sévère.
Il n'y a pas de sécurité.
Pour les hommes supérieurs, soit. Mais les hommes ordinaires...
Les hommes ordinaires n'ont dans la bouche que les mots de raison, de bon sens, pauvres types. Ils finissent toujours par tomber en pleine extravagance. Leurs folies sont aussi diverses que leurs visages. Il n'y a pas de folie pareille dans le monde. Il arrive parfois. On est tout prêt. Enfin, qui de nous n'a été tenté d'en finir d'un seul coup avec cette sécurité imbécile ? On voudrait leur ouvrir les yeux, coûte que coûte.
Oublions les hommes ordinaires. Parlez-moi de Madame Louise.
Vous êtes un homme fin. Fin et subtil. C'est pourquoi je ne ruserai pas avec vous. Je vous demanderai seulement de m'éviter tout contact direct avec la police et les enquêteurs.
Mais mon devoir...
Monsieur, vous me l'épargnerez. Qui sait si les renseignements dont je disposerai bientôt peut-être ne vous permettront pas de clore une instruction qui semble vous promettre plus de déboires que de plaisir.
Je vous entends.
Enfin... Que veut-on que je sache d'un crime commis dans un pays inconnu de moi, sur une malheureuse personne dont j'ignorais hier l'existence ? La victime est morte et l'assassin aussi, le mal est fait, non ? Le mal commis est donc irréparable, et la société ne saurait même plus s'en venger sur son auteur.
Je voudrais que le problème fût aussi simple.
Évidemment, il ne l'est plus si on sort du domaine des faits pour entrer dans celui des mobiles. Ce que nous appelons les intentions... Et ce domaine est pratiquement illimité.
Justement. On ignore quelles difficultés nous rencontrons dès qu'il s'agit de rassembler sur tel ou tel les renseignements nécessaires pour dégager un individu de son apparence sociale. On enseigne que le corps humain se renouvelle tout entier jusqu'à la dernière cellule en une dizaine d'années. Il ne faut pas un délai plus long pour changer socialement de peau. Il y a dans notre affaire... pas mal de gens peu déchiffrables. La victime, cette dame de Mégère, il faut un peu de réflexion pour l'imaginer ailleurs. Au Caire où elle habitait il y a 12 ans. Et un an plus tôt, on l'aurait trouvée à Auteuil. Savez-vous où elle a appris la déclaration de guerre de 1914 ? À Ceylan. Des palaces, oui. Des pensions de famille tant qu'on voudra, mais de famille, point. Rien autour. L'héritière est une arrière-petite-nièce du mari.
Quelle héritière ?
Une demoiselle de Châteauroux, dévote, recluse. Une personne inoffensive. Elle n'a pas quitté sa ville depuis des mois. Je m'intéresse beaucoup plus à Madame Louise.
Madame Louise, je lui ai parlé. J'aurais souhaité n'attirer là-dessus l'attention de personne. Hélas, la surveillance qu'on exerce sur moi...
Laissez-moi vous expliquer.
Je ne suis pas si naïf. Votre intérêt aurait avantage à m'épargner. Car enfin, les confidences qu'un prêtre reçoit ne sont pas des confidences comme les autres.
Il ne m'est jamais venu à l'idée de vous garder à ma disposition.
J'espère. Je dois ici défendre la dignité de mon ministère. Toute surveillance exercée sur cette maison, sur ses abords, sur les gens que j'y fais venir, peut prendre aux yeux des paroissiens un caractère fâcheux, très fâcheux. Il y a 20 minutes à peine, en me penchant à cette fenêtre, j'ai pu apercevoir par-dessus la haie...
Grignol ! Mille pardons. L'inspecteur est arrivé tout à l'heure de Grenoble et il croyait me trouver ici. Il s'agit d'un malentendu.
Qui risque fort de se renouveler. Puis-je disposer librement de 2 jours, 3 au plus ?
Je vous ai dit, vous êtes libre.
La moindre intervention de vos collaborateurs peut tout faire échouer. J'ajoute qu'un échec engagerait gravement mon honneur. Cela briserait ma vie. Je ne demande que votre parole. Je ne veux pas être espionné, voilà tout.
D'accord. Pourquoi vous refuserais-je ce service ? Entre nous, je préfère vous avoir pour ami. Vous êtes extraordinaire. Le prêtre le plus extraordinaire que j'ai jamais vu.
Expliquez-vous.
C'est une impression complexe. Peu de choses. Enfin, j'ai quelque expérience du visage humain. Expérience professionnelle. Eh bien, il y a dans les traits du vôtre une sorte de contraste. Je vous fais l'effet d'un imbécile.
Ce contraste est dans votre esprit.
Alors disons une expression, presque enfantine, alors que, même au séminaire on a dû vous le dire, je parle de votre ascendant. Cette force, un prêtre de votre âge n'a pas d'habitude, cette assurance profonde qui... On croirait que vous avez longtemps vécu.
J'ai souffert, cela revient au même. Mais rassurez-vous, ni au séminaire ni ailleurs, personne ne s'en est jamais soucié.
Excusez-moi.
Ai-je votre parole ?
Vous l'avez, sans condition. Et par curiosité, ce que vous me demandez n'est pas sans rapport avec votre entretien avec Madame Louise, la gouvernante. Une ancienne religieuse, n'est-ce pas ? Ça a des secrets.
Madame Louise ? Je vous donne ma parole de prêtre que cette personne est irréprochable. Vous commettriez une cruauté, une grande cruauté, en cherchant à lui arracher un secret qui serait inutile à l'enquête. Et même, peut-être me verrais-je dans l'obligation de faire venir près de moi Madame Louise. Cela, je vous l'affirme sur ma conscience sacerdotale. Excusez-moi, je ne tiens plus debout, mes nerfs.
Votre conscience, vos nerfs. Moi aussi, je suis sur les nerfs.
Ma conscience ne me fait aucun reproche à moi. Vous servez votre justice. Tout indigne représentant que je sois d'une justice supérieure à la vôtre, d'un pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs, je ne puis rien. Je suis désarmé comme un enfant. Je vous regarde vous agiter autour de ces 2 cadavres avec un sentiment de dégoût, une espèce d'horreur dont je ne suis pas maître. Un crime, un meurtre, cela m'apparaissait tellement simple. Une vie de plus ou de moins, alors que chaque minute en moissonne des milliers à travers le monde. Et maintenant, je vois que chaque crime crée autour de lui une sorte de tourbillon qui attire vers son centre les innocents et les coupables. Le criminel est son juge. Et vous imaginez ? Oh, mon Dieu !
Le curé glissa sur les genoux, battant l'air de ses bras, et s'écroula. Son front cogna contre le mur. Le juge resta un moment immobile, portant son regard avec une rapidité extraordinaire aux 4 coins de la chambre, puis le ramena sur le corps inerte, étendu à ses pieds. Son hésitation ne dura qu'une seconde, mais la curiosité à son paroxysme marqua tous ses traits jusqu'à faire de ce visage poupin, le temps d'un éclair, une sorte de visage grimaçant. Déjà, le prêtre ouvrait les yeux.
Je vous demande pardon. Je suis sujet à ces sortes de crises. Le mieux, sans doute, est de me mettre au lit.
J'abusais de vos forces. C'est à moi de vous demander pardon.
Il fit en même temps, et probablement à son insu, le geste de quelqu'un qui remet à plus tard une besogne urgente, se détourne à regret de l'occasion perdue. Mais l'occasion perdue ne se retrouverait plus. Il ne devait jamais revoir le curé de Mégère.
Crime de Georges Bernanos. Avec Jonathan Capdevielle,
Nicolas Gonzalez,
Bernadette Le Sachet,
Yves-Marie Morin,
Michel Simonet,
Marie-Bénédicte Roy,
Julien Cibre,
Christian Mulot,
Camille Garcia,
Olivier Clavry,
Alicienne Schmitz,
Franck Desmet,
Donna Guibert,
François Soul,
Pierre-Yves Desmonceaux,
Donatien Guillot,
Michel Baladi,
Jean-François Labouvry.
Bruitage, Alain Platiot.
Adaptation, Sylvie Péju.
Prise de son, montage, mixage, Jean-Richard Dufour. Éric Villenfin, Manon Houssin.
Assistante, Anne-Laure Chanel.
Réalisation, Jean Couturier.